Bonjour à toutes et à tous. L'économie au service de qui, au service de quoi? C'est ce dialogue que nous allons avoir aujourd'hui, tout de suite. Un dialogue entre deux voies économiques majeures. Une est en visio, alors j'espère qu'on va la voir rapidement à l'écran. Deux voies majeures du débat économique. Alors je commence par François Villeroy de Gallo, puisqu'on vous voit là physiquement avec nous à Lyon, donc gouverneur de la Banque de France. Et puis Esther Duflo, alors qui est donc en visio. Voilà, bonjour Esther Duflo. Merci à vous particulièrement, puisqu'il est 6h45 hein, chez vous à Boston. Je rappelle que vous êtes donc prix Nobel d'économie de 2019 et professeur au MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, à Boston. Donc encore une fois, merci d'être aussi matinal pour nous. Alors, vous êtes donc deux voix qui partagez une conviction, c'est que l'économie, ce n'est pas une affaire d'experts ou des modèles abstraits. L'économie, pour vous, pour tous les deux, c'est un instrument au service de la société. Et vous vivez cette même réalité, on en parlait en préparant cette conférence, qu'il y a une méfiance croissante du public vis-à-vis des économistes, des institutions et des décideurs publics. On va en parler, on va tenter de comprendre un peu les raisons de cette méfiance et puis explorer des moyens d'y répondre pour ne pas rester sur un constat un peu déprimant. On va suivre un canevas d'échanges et puis vous aurez, comme toujours dans la salle, la possibilité de poser des questions. Il y a un numéro normalement qui s'affiche pour que vous puissiez envoyer des questions sur la tablette et je me chargerai de les relier. Donc peut-être pour démarrer l'échange, on va partir sur la critique un peu générale que les économistes ne parlent pas pour les citoyens. Les économistes font exprès de parler un jargon pour qu'on ne les comprenne pas. Esther Duflo, est-ce que vous rejoignez ce constat et est-ce que vous avez effectivement sur le terrain la sensation que le mot économie fait peur ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolée de ne pas être en personne à Lyon. Effectivement, quand on prend l'avion et qu'on s'assoit à côté de quelqu'un, qu'on démarre une petite conversation et qu'on a le malheur de dire qu'on est un économiste, souvent les réactions sont de trois ordres, soit des gens qui vous demandent immédiatement si vous n'avez pas quelques conseils sur quoi faire sur leur investissement, ce qui est une des questions auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre en général, soit de nouvelles idées sur de grands systèmes économiques, soit plus fréquemment un petit geste de recul derrière ce que représentent les économistes. Et effectivement, dans les sondages d'opinion, en particulier un sondage qui avait été conduit par YouGov au Royaume-Uni et que j'ai pu répliquer répliquer aux États-Unis par la suite, quand on demande aux gens à qui ils font confiance dans leur domaine d'expertise, on voit que les économistes sont tout en bas de la liste dans les experts à qui les gens font confiance, avec les hommes et les femmes politiques, à 25% de gens qui font confiance aux économistes sur l'économie, contre 50% des gens qui font confiance aux météorologues sur la météorologie ou quasiment 90% des gens qui font confiance aux médecins sur la médecine. Donc on voit bien qu'il y a un gros déficit de confiance.
Peut-être sur ce constat, François Villeroy de Gallo, avant de parler un peu de ce qu'on pourrait faire pour remonter la pente.
D'abord dire que je suis très heureux de me retrouver au GECO. Je crois que c'est ma 11e participation, cher Pascal. Et j'ai un souvenir précis dans ce même lieu, il y a exactement un an. Nous parlions, c'était le mercredi qui suivait l'élection de Donald Trump. Donc je ne peux pas vous dire que ce soit un souvenir uniformément bon, mais j'aime autant me retrouver cette année, même pour parler de vieux démons et nouveaux mondes. Sur ce qui nous réunit aujourd'hui, on est évidemment dans des positions très différentes avec Esther Duflo, mais je crois qu'on part de cette même difficulté. C'est que le mot économie, effectivement, fait peur, et je ne vous raconte pas. Si on emploie l'expression banque centrale ou politique monétaire, ça fait encore plus peur, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Il se trouve d'ailleurs, on en reparlera par rapport à la défiance dont vous parlez, on doit aussi y faire face, mais que les banques centrales et l'euro qui est notre produit échappent relativement à la défiance. Il y a peut-être quelques leçons intéressantes autour de l'indépendance et du compte-rendu démocratique qu'on doit faire. Reste cette question de langage. Je crois que c'est très important. que nous expliquions d'abord que l'économie, ce n'est pas une espèce de science éthérée. Vous savez, quelquefois, on dit la macroéconomie. Bien sûr, nous sommes dans la macroéconomie, dans les moyennes, dans les agrégats, dans les modèles, mais ça a des conséquences très concrètes dans la vie des hommes et des femmes. Par exemple, l'inflation, qui est notre souci premier. Je crois aussi qu'il faut qu'on adapte notre langage. Probablement, un des plus gros travaux qu'on a fait à la Banque de France ces dernières années, c'est, à partir d'une expertise qui est incontestable, hein, il y a une science économique et monétaire, mais d'arriver à la traduire dans des termes compréhensibles par nos citoyens. Et moi, je considère ça comme notre premier devoir démocratique. Nous devons des comptes rendus à nos concitoyens. Est-ce que j'ose illustrer ça par quelque chose que j'ai vécu avec les équipes économiques de la Banque de France, et elles sont de grande qualité. La première fois que j'ai dû aller expliquer la politique monétaire, je ne sais plus si c'était à la télévision ou à la radio, j'ai dit aux équipes, voilà ce que je compte dire. Et il y a un certain nombre de membres des équipes qui sont là, qui peuvent en témoigner. Ils m'ont dit, non, monsieur le gouverneur, ils m'ont dit très gentiment, mais vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça parce que c'est faux. Alors j'ai dit, mais quelle est la part de faux? Ils m'ont dit, il y a à peu près 20% de faux dans ce que vous venez de dire. Alors j'ai dit, dites-moi ce que je peux dire. Et ils m'ont dit quelque chose qui était économiquement et techniquement parfait, mais honnêtement incompréhensible. Et donc j'ai dit, à partir de là, on va commencer la négociation. Et on a négocié, on est arrivé à quelque chose, je crois, qui doit être à 90 ou 95% vrai, qui est compréhensible. Et je crois que ce devoir de simplicité... Pour moi, ce n'est pas seulement un devoir technique, hein. C'est un devoir démocratique et puis c'est un devoir d'efficacité, parce que si la politique économique, et en particulier la politique monétaire, est mieux comprise, mieux acceptée, je pense qu'elle est mieux transmise et plus efficace.
Esther Duflot, sur cette question du langage, du devoir de simplicité, de traduction presque, de pédagogie, comment vous l'expérimentez, vous? Comment vous pouvez adapter éventuellement la divulgation de vos résultats de recherche, ou comment voilà, les mots peuvent aider aussi à mieux véhiculer la discipline économique?
Je crois qu'il y a effectivement une question de langage, dans le sens où la profession économique s'est extraordinairement diversifiée dans les 30 dernières années, tant au point de vue des sujets dont elle traite. On ne parle pas, n'en déplaise au gouverneur, on ne parle pas que de macroéconomie en économie, pas que de taux d'intérêt et d'inflation, mais aussi d'inégalité, d'éducation, de santé, de transport, de climat, de discrimination, etc., de sujets qui sont extrêmement variés et extrêmement proches de la vie de tout le monde. Et elle s'est diversifiée à la fois dans ces sujets et aussi dans ces approches. C'est-à-dire, même au moment où moi j'ai commencé l'économie, il y avait quand même une certaine, opinion collective assez largement partagée. J'ai souvent d'ailleurs entendu certains de mes collègues disant que quand on avait une opinion différente, fondée même sur des résultats de recherche, il y a des choses qui valaient mieux pas partager au grand public, parce qu'on risquerait de prêter à confusion. Par exemple, les premières études qui ont montré que le commerce international pouvait faire du mal aux gens les plus pauvres dans les pays riches, par exemple aux gens dans les campagnes américaines qui perdaient leurs emplois à fabriquer des meubles. Je me souviens, c'est un de mes collègues, David Autor au MIT, qui est l'auteur de l'étude la plus connue sur ce sujet, qui l'a montré pour la première fois. Et je me souviens d'une conversation avec un collègue au déjeuner, lui disant « Oui, mais il vaut mieux ne pas trop en parler, parce que sinon les gens vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre que le commerce est une bonne chose si tu leur expliques qu'il y a des aspects négatifs aussi. » Donc, il y a un petit peu, il y a un côté, effectivement, du langage qui est employé. Il y a un côté de... Je pense que les économistes sont trop timorés, souvent, d'étaler leur linge sale à l'extérieur de la famille et leur désagrément. Et bien sûr, il y a l'effort de faire partager. Ça aussi, ça a changé avec des gens, évidemment, comme Thomas Piketty, qui ont écrit des livres lus par des millions de gens, que ce soit en France ou dans le monde entier. Bon, par mes efforts à moi, par l'enseignement, que ce soit le mien ou celui de Philippe Aguillon au Collège de France, qui a très, très, qui touche un très large public. Et moi, j'ai poussé à l'extrême, puisque j'ai écrit toute une série de livres d'enfants, 10 livres pour les enfants, pour illustrer la pauvreté, pour montrer à quel point, je pense qu'on peut dire énormément de choses, je pense qu'on peut tout dire, si on négocie, comme le gouverneur de la Banque de France le fait, pour s'assurer de dire la vérité, mais de la dire d'une manière nuancée et qui parle. Mais qu'il faut faire l'effort et qu'il faut prendre le risque de perdre une image un peu lisse de ce que la science économique peut avoir à dire. Et cette image un peu lisse nous a fait, je pense, en tant que profession, mais aussi en tant que société, extrêmement de mal.
Moi, je rends hommage à ce que des économistes comme Esther Duflo font. Je suis très sensible à cette dimension de changement. Je crois qu'on cherche aussi des raisons d'espérer hein, dans ces nouveaux mondes. Là, je crois qu'il y a quelque chose qui a changé depuis 25 ans. On n'est pas au bout. Moi, je vous cite dans notre domaine, hein, qui est celui des banques centrales, un contre-exemple d'il y a 25 ans et un exemple positif, je crois qu'on essaie de faire aujourd'hui. Le contre-exemple d'il y a 25 ans, sans doute beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est une histoire assez célèbre dans le milieu monétaire. C'est Alan Greenspan, prestigieux président de la Fed, qui se retrouve dans un hearing au Congrès, qui fait une déclaration, semble-t-il, suffisamment absconde, et un congressman lève la main et dit « Monsieur le Président, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, ça veut dire que vous allez baisser les taux d'intérêt. » Et Alan Greenspan, sans se démonter, dit « Monsieur le congressman, si vous avez déduit quoi que ce soit de ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. On n'en est plus là. Hein. Ça, c'est vraiment le passé, l'idée de la tour d'ivoire, on est là-haut, on est entre nous, et surtout, il faut que personne ne comprenne ce qu'on fait. Ça, encore une fois, je crois que c'est un manquement démocratique, mais c'est aussi un manquement économique, parce que la politique monétaire est moins efficace si elle est moins bien comprise. L'exemple positif, c'est ce que nous avons fait cette année à la Banque de France. On a fait un pilote, et comme ça a marché, on va le généraliser. On a lancé une opération qu'on appelle Ensemble Dialoguons. Alors, vous me direz, ce titre, c'est la moindre des choses. Mais ça a été quoi l'idée? Ça a été l'idée d'ouvrir la moitié de nos succursales. On a fait ça à l'occasion des Journées du patrimoine en septembre. Et puis on a prolongé par des lives dont je vais dire un mot. Et on a fait deux paris à cette occasion. On a dit, un, tous ceux qui viendront nous poseront toutes les questions qu'ils veulent. Et nous, on ne va pas commencer par un exposé, etc. Et le deuxième pari qu'on a fait, c'est qu'on va envoyer des spécialistes, des économistes, on en a beaucoup, qui iront de Guéret à Bar-le-Duc pour répondre à toutes les questions. Et je vous assure que c'était un peu un choc des mondes. Et il y avait une inquiétude chez nous en disant, mais il y a des questions auxquelles on ne saura pas répondre, ou il y a des questions qui vont nous gêner. Et puis les experts ont dit, mais moi, comment je vais faire pour être accessible aux questions de nos concitoyens? Tout le monde est revenu ravi. Parce que ça a été quelque chose qui nous a déplacés et qui nous a appris. Et on s'est mis à portée de nos vrais maîtres que sont les concitoyens. Et on prolonge avec des lives hebdomadaires. Alors pardon, je vais citer une des personnes ici présentes qui est Vincent Bignon, que peut-être certains d'entre vous ont entendu depuis le début des GECO. Vincent, c'est notre pédagogue en chef de l'économie. Toutes les semaines, le mercredi, le mardi à 18h30 sur nos chaînes YouTube, pardon de cette petite page de pub, LinkedIn ou X, enfin les réseaux Banque de France, on est passé maintenant à une fréquence toutes les semaines et même règle, toutes les questions. Il n'y a pas de thème a priori. C'est une mise en risque, hein, soyons clairs, mais je crois que si on veut que l'économie arrête de faire peur et aide dans la vie quotidienne des gens, il faut accepter cette prise de risque. Je peux vous dire que nous, on a beaucoup appris.
Alors merci, parce que vous avez fait ma transition vers la deuxième critique qui est formulée envers les économistes, qui est « ils ne s'occupent pas de nous, en fait, citoyens ». Il y a une distance entre les experts et les citoyens. Là, on a parlé beaucoup de la forme. Sur le fond, est-ce que ce qui n'est pas perturbant parfois, c'est Esther Duflo évoquait les désaccords entre économistes, mais finalement, est-ce que ça ne contribue pas parfois à perdre un peu le grand public? Parce que là, on se dit finalement, ils ne sont pas d'accord, donc on a du mal à retrouver ces petits. Là, il y a un exemple d'actualité qui est la taxe Zucman. On voit bien qu'il y a des économistes très célèbres des deux côtés, ceux qui sont en soutien et ceux qui dénoncent ce projet de taxe. Comment est-ce qu'on peut aussi assumer qu'il y ait des différences et, voilà, et en même temps expliquer les choses pour que chacun puisse se faire finalement son opinion? Peut-être Esther Duflo?
Moi, je crois que justement, l'économie s'est perdue pendant de nombreuses décennies sous la houlette de l'école de Chicago, parce qu'elle a adopté non seulement une nouvelle langue, mais aussi un esprit de pensée collective, uniforme, qui laissait penser qu'il y avait une espèce de vérité qui découlerait d'hypothèses incontestables. Or, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et la vérité, c'est que cette vision-là extérieure de l'économie, elle correspondait pour beaucoup de gens, et sans doute elle correspond encore pour certaines personnes, aussi à une vision, à leur rêve pour l'économie, qui ressemblerait plus à la physique, où qu'on pourrait vraiment décrire le monde de manière complète à partir d'un modèle qui serait un modèle vrai du monde. Et ce n'est pas du tout le cas de l'économie telle qu'elle est. C'est trop compliqué, il y a trop de choses qui se passent, il y a trop de facteurs humains. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des modèles, mais ça veut dire que les modèles qu'on fait sont une manière, c'est comme la carte du métro parisien. Elle représente c'est très utile d'avoir la carte du métro parisien, mais ce n'est pas la carte de Paris. C'est une représentation d'une partie pertinente de l'infrastructure parisienne qui nous permet de nous guider si on prend le métro, mais pas pour d'autres objectifs. Et c'est la même chose pour l'économie, on ne peut pas arriver à mieux que cela. Et donc la réalité, c'est que des désagréments, il y en aura forcément, parce que les hypothèses, les gens font des hypothèses différentes. Certains, parfois on a les données, parfois on ne les a pas, parfois on les accumule et donc on change d'avis. En tout cas, ce serait une bonne chose qu'on change d'avis, on devrait changer d'avis. Parfois, on met des choses sous le tapis, puis après, on se rend compte qu'en fait, ces choses qu'on a mises sous le tapis, elles sont très importantes, on peut pas ne pas en parler, etc. D'où, si vous prenez l'exemple de la discussion sur la taxe Zucman, pour moi, en fait, c'est quasiment l'opposé de ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est une très bonne chose que les économistes la discutent. Ce qui était scandaleux, c'est que certaines personnes conteste l'expertise de la personne qui est en face d'eux en disant bah, s'il n'est pas d'accord avec moi, ça veut dire que ça ne doit pas être un vrai économiste. Notez que ce n'est pas des économistes qui ont dit ça, enfin, en tout cas pas à ma connaissance. Les débats entre économistes, ils peuvent et ils doivent avoir lieu. Et on a vu ça pendant le Covid, que les fausses certitudes qui se trouvent être incorrect au fur et à mesure qu'on apprenait plus, en fait, contribue énormément au sentiment de défiance que les gens ont eu pendant le Covid en disant ah ben, on nous a dit que c'était absolument certain que c'était pas la peine de mettre des masques, mais en fait, deux semaines plus tard, c'était tout à fait nécessaire. On nous a dit qu'il fallait pas toucher les surfaces, mais en fait, c'est aérosol. Bon, dans le cas du Covid, on apprenait en marchant, donc c'est bien normal. L'économie, c'est pareil. Et l'erreur qui a été faite tout au début du Covid de communication, c'est d'assumer une espèce de certitude qui n'était pas là. Et dans l'urgence, je comprends complètement pourquoi c'est comme ça qu'on a fait. Mais enfin, ex post, on voit bien que ça a été une erreur extrêmement coûteuse. L'économie, de la même manière, ne doit pas, l'économie et les économistes, ne doivent pas prétendre une certitude qui n'est pas là. Les économistes comme Gabriel Zucman et Philippe Aguillon, qui sont de l'autre côté du débat, par exemple, sur la taxe, partent d'hypothèses différentes. Et à un moment ou à un autre, les citoyens sont grands et intelligents et capables, si on leur explique, si on leur met les hypothèses de manière transparente d'un côté et de l'autre, de prendre leurs propres décisions, ce qu'ils font d'ailleurs.
François Villeroy-Taillon.
Il me semble qu'il y a deux choses un peu différentes dans votre question, Marie. Il y a les débats entre économistes qui créent la confusion. Là, je suis d'accord avec ce que Serre Duflo vient de dire. Heureusement qu'il y a des débats entre économistes. Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord tous les deux sur la taxe Zucman, mais ce n'est peut-être pas le cœur du débat de ce matin. Mais heureusement qu'il n'y a pas de vérité révélée. Hein. Mais il me semble qu'il y a une autre critique en amont et qui, elle, touche tout le monde, qui est de dire « vous ne vous occupez pas de nous ». Vous êtes dans vos grands débats économiques, vous êtes dans la macroéconomie, c'est-à-dire les grands agrégats, les moyennes, c'est pas ça que nous, on vit au quotidien. Alors, je trouve cette difficulté-là beaucoup plus réelle. Hein. Et je vais être honnête, je vais l'appliquer à ce qui est notre mission à nous. Nous sommes, Banque Centrale, d'abord dans la macroéconomie, c'est-à-dire les grands agrégats, les grands enchaînements et les moyennes. vous connaissez la mission de la Banque de France avec la Banque Centrale Européenne. La première mission, c'est de garantir la stabilité des prix qu'on a définie comme une inflation en moyenne autour de 2% dans la zone euro. Je viens de dire en moyenne. Ça, c'est de la macroéconomie. Et puis, on joue au taux d'intérêt. Il y a un seul taux d'intérêt dans la zone euro. On ne peut pas l'adapter à la situation de chaque pays ou de chaque personne. On est toujours dans la macroéconomie. Et pourtant, c'est là-dessus que je voudrais développer un peu, et pourtant, à travers cette macroéconomie, ça a des conséquences très concrètes dans la vie des personnes. Et je crois qu'il faut que nous fassions un effort supplémentaire là-dessus. D'abord, la conséquence très concrète, évidente, c'est que l'inflation, c'était, souvenons-nous, le premier souci des Français et des Européens en 2022-2023. On ne parlait que de ça. Parce que ça avait plein de conséquences, d'incertitudes sur le pouvoir d'achat, sur les difficultés de fin de mois de certains, etc. Et donc, je crois que là, la macroéconomie a aidé à traiter. On est revenu aujourd'hui à une inflation qui est de 2,1 en zone euro. Elle est même autour de 1% en France. Ça fait du pouvoir d'achat. Là, je crois que la macroéconomie a bien servi les situations de vie concrètes, quotidiennes, des hommes et des femmes. Mais ça ne suffit pas, ce que je viens de dire, parce qu'on pourrait se contenter de ça. Je crois que nous, on est appelés à aller plus loin, c'est-à-dire à regarder plus en détail ce que vivent les personnes. Je reste sur l'exemple de l'inflation. On mesure une moyenne. Cette moyenne, elle est mesurée par l'INSEE. Je ne sais pas si Jean-Luc Tavernier, qui était là ce matin, voilà, ancien directeur général de l'INSEE, souvent la moyenne est critiquée en disant « vous ne calculez pas ce qu'il faut ». Non, je pense que, je le dis d'autant plus, ce n'est pas la Banque de France. Je pense que nous avons des statistiques crédibles. Vous êtes en train d'ailleurs de voir aux États-Unis ce qui se passe quand on arrête l'appareil statistique, c'est le shutdown, voire quand on cherche à le déformer, parce que la nouvelle administration américaine a décidé que les chiffres de l'emploi étaient déplaisants, donc on remplace l'équivalent du directeur général de l'INSEE. Donc je crois que ce qui est en cause, ce n'est pas la statistique moyenne, c'est qu'on essaye, nous, de mieux comprendre qu'il y a des ressentis objectivement différents. Je vais prendre des exemples très concrets. Au début de l'inflation, c'est le prix de l'énergie qui a augmenté le plus. Ben, ceux qui consommaient le plus de combustible pour se chauffer ou d'essence pour leur trajet quotidien ont plus ressenti l'inflation. Un an après, c'était les produits alimentaires qui a pesé le plus sur les ménages modestes parce qu'on sait que le budget alimentaire est une part plus importante proportionnellement des budgets des ménages modestes. Tout ça, c'est très important qu'on le perçoive. Ça ne remet pas en cause la moyenne. Mais quand quelqu'un nous dit « moi, je doute de votre mesure d'inflation », ce n'est pas pour attaquer la statistique, c'est pour dire « intéressez-vous de plus près à ce que je ressens ». Et ça, nous essayons de le comprendre. Et puis nous essayons, ça fait partie des missions de la Banque de France, d'accompagner mieux les personnes qui sont les plus en difficulté. Ça, c'est notre mission de lutte contre le surendettement. On a plafonné les frais bancaires. On a conduit toute une série de missions là-dessus. Mais j'essaye vraiment toujours que nous faisions ce lien entre la macroéconomie et la microéconomie. Le terme n'est peut-être pas bon, mais pour dire la vie quotidienne des gens.
Esther Duflo, vous, vos travaux sont sur des sujets qui sont peut-être plus concernants justement que la macroéconomie, l'éducation, la pauvreté. Est-ce qu'il faudrait en parler plus, selon vous, de ces sujets-là? Et qu'est-ce que la science économique apporte à ces sujets-là? Comment on peut mieux utiliser la science économique et montrer que ça a un intérêt?
Oui, de plus en plus d'économistes ne sont pas des économistes qui font de la macro. Ce sont des économistes qui traitent de sujets donc, qu'on appelle plus micro. Mais micro, ça ne veut pas dire pas important, comme l'a dit le gouverneur. Ça veut dire en partant des individus, des institutions, des communautés, de leurs sujets. Par exemple, donc, à l'École des Comiques de Paris, que je préside, nous avons deux grands centres de recherche économique pour la société, un sur la macro, un sur la micro, qui est l'Institut des politiques publiques. Et l'Institut des politiques publiques, en fait, produit souvent d'ailleurs en collaboration avec les différentes administrations françaises, une grande partie des données et des études qui conduisent à des débats nourris et importants. Par exemple, la carte scolaire. Qui va à l'école privée, qui va à l'école publique, quelles sont les ressources des familles dans ces deux types d'établissements et les ressources des établissements elles-mêmes. Par exemple, la taxation la taxation des revenus à tous les niveaux, qui a permis de montrer de manière très claire que les personnes dont les patrimoines étaient les plus importants payent beaucoup moins d'impôts que les autres, en particulier ceux qui sont un tout petit peu moins riches, et même ceux qui sont d'ailleurs beaucoup moins riches. Et c'est cette statistique-là qui n'est pas contesté, qui produit, disons, la base du débat sur comment on fait pour avoir une taxation plus égalitaire, et donc la base du débat sur la taxe Lukman dont on parlait précédemment. Par exemple, de réfléchir sur l'organisation de l'hôpital public, où les sujets sur lesquels nous, à Poverty Action Lab, nous travaillons, sur la protection sociale, la lutte contre la pauvreté, etc. Donc tous ces à nouveau, au cours des 30 dernières années, on voit un basculement de la profession qui était donc peut-être deux tiers macro, un tiers pas macro, qui est passé à moitié-moitié et qui aujourd'hui est peut-être trois quarts plutôt sujet micro, politique publique, etc., et un quart de macroéconomie. Mais effectivement, ce n'est pas la représentation qu'on se fait de l'économiste. Je pense qu'il y a deux raisons à cela. D'une part, c'est une question de communication, c'est-à-dire effectivement les gens qu'on voit à la télévision nous parler d'économie sont plutôt les macroéconomistes qui nous parlent de l'inflation et des taux de change. D'autre part, parce que le relais entre les économistes et la politique publique est peut-être moins direct sur ces questions micro que sur les questions macro, et en particulier souvent les leçons des études microéconomiques sont un peu plus correspondent peut-être moins à l'orthodoxie du premier cours d'économie que les hommes et les femmes politiques ont pu suivre, et donc n'est pas forcément toujours repris et pas toujours écouté, peut-être de la manière la plus simple possible.
Je peux réagir un peu, Marie, sur quelque chose que votre question avait peut-être l'air de suggérer, parce que vous dites, Esther Duflo, vous faites des sujets plus concernants que l'inflation. Là, je me suis senti un peu stimulé. L'inflation, c'est très concernant dans la vie des gens. Non, je ne voudrais pas qu'on aille, je ne sais pas si Esther est d'accord, mais je ne voudrais pas qu'on aille jusqu'à dire la microéconomie, c'est beaucoup mieux que la macro. Moralement, les microéconomistes, c'est mieux que les macroéconomistes. Ou les grands agrégats et les moyennes, ça ne veut rien dire.
On fait un dialogue.
Non, mais je crois que c'est pas la première fois qu'on se parle avec Esther Duflo, mais je pense qu'on sera d'accord sur une forme de complémentarité ou de pont à créer. Hein. Moi, je vais prendre l'exemple des moyennes et des statistiques, parce que ça, c'est un débat très simple. Il y a une tendance qui consiste à dire la moyenne veut rien dire ou la moyenne est fausse. Je pense que ces deux tendances sont extrêmement dangereuses. Nous ne pouvons pas ignorer la macroéconomie. Ce à quoi nous sommes appelés, c'est dire qu'elle ne suffit pas. Je crois que j'ai essayé de l'illustrer sur l'inflation. Il faut aller jusque dans la vie concrète des personnes et leurs différences de consommation. Mais je vais l'illustrer sur un autre exemple de grande actualité, c'est notre débat budgétaire aujourd'hui. Quand on dit qu'il y a trop de déficit et trop de dettes en France, je ne vais pas vous surprendre, je vais le redire. Ça, c'est de la macroéconomie. Et c'est extrêmement important dans la vie des gens. Parce que si on continue, il y a pas mal de jeunes qui sont là, à étouffer l'avenir des jeunes sous une charge d'intérêt de plus en plus lourde, eh bien on aura de moins en moins de liberté pour faire le climat, l'éducation ou notre défense, qui sont nos priorités. Donc là, la macro, elle est extrêmement importante dans la vie des gens. Mais si on veut aller au bout de ce débat budgétaire, il faut utiliser un certain nombre des travaux d'Esther Duflo ou d'autres, qui est, je vais regarder l'efficacité des différentes politiques publiques. Moi, je ne sais pas si ça vous frappe comme moi, mais je suis consterné que dans notre débat budgétaire, on n'aille jamais dire quels sont les pays qui réussissent le mieux en Europe sur l'éducation, ou quels sont les pays qui réussissent le mieux sur la santé ou sur le logement. Il y a des pays en Europe qui dépensent plutôt moins que nous, ou autant que nous sur l'éducation, et qui ont des meilleurs résultats. La Finlande, évidemment, tout le monde connaît. Mais le Portugal, qui a fait beaucoup de progrès récents, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qui se passe dans ces pays européens? Jamais. Donc là, ce lien entre la macro et la micro, moi, c'est un plus auquel j'appelle. Par ailleurs, Esther, il me semble que je vais nuancer, mais je ne suis pas sûr. Vous allez dire que la macro serait plus du côté de l'orthodoxie, je ne sais pas, il peut y avoir une domination, mais je vais prendre un exemple de débat macro qui, moi, commence à me fatiguer un peu. Ça doit être l'âge, hein. Mais le fait est que le débat macro en France, qui est toujours est-ce que je veux des politiques d'offre ou des politiques de demande, et on associe chacun à un camp politique, moi, ça me fatigue. Moi, ça me fatigue. Il faut une bonne combinaison des deux, et surtout, il faut aller regarder un peu plus en détail. Donc, voilà, je ne remets rien en cause de ce que peut apporter des bonnes politiques économiques, le raisonnement économique, des statistiques fiables, mais il me semble que ce à quoi nous sommes appelés, c'est à construire un pont qui, c'est vrai, est assez inhabituel.
Esther Duflo, dans le prolongement de ce que disait François Villeroy de Gallo sur la complémentarité, est-ce que vous pourriez nous partager un exemple de recherche que vous avez menée ? Vous avez mentionné l'hôpital public ou les aides à l'emploi, voilà, des domaines dans lesquels vous avez mené des recherches qui ont fait émerger des résultats qui sont peut-être insuffisamment utilisés ou insuffisamment connus, comme le dit François Villeroy de Gallo, dans les politiques publiques.
Un des résultats... Je ne vais pas, pas suffisamment d'arrogance pour prendre un de mes résultats à moi et de dire qu'il aurait fallu tout changer la politique sur la base de ce résultat-là, puisqu'évidemment, une accumulation de résultats qui permettent d'avoir la confiance suffisante dans la nature de ce résultat pour pouvoir changer la politique. Donc, je vais vous donner... non pas une étude, non pas le résultat d'une de mes études, mais ce qu'on a appris au fil des ans sur, en accumulant les études, qui est sur la réponse des citoyens et des citoyennes quand ils reçoivent des aides sociales financières. Donc il y a toujours cette peur qu'on retrouve quasiment verbatim dans les discours politiques, que ce soit en France ou ailleurs, qui est de dire oh, si l'assurance chômage est trop généreuse ou si les programmes complémentaires comme le RSA par exemple sont trop généreux, les gens vont s'arrêter de travailler. Et ce n'est pas une bonne chose évidemment pour le budget, ce n'est même pas une bonne chose pour eux. Mais en réalité, ce qui a été constaté au cours d'une, grâce à vraiment des dizaines et des dizaines d'études, donc c'est pas du tout un résultat isolé, c'est qu'on se place dans des pays pauvres ou qu'on se place dans des pays riches, il n'y a pas d'effet désincitatif fort des aides sociales au niveau où elles sont aujourd'hui sur l'offre de travail. Ce qui empêche les gens de travailler, c'est pas qu'ils sont paresseux et que donc si on leur donne un petit peu d'argent, ça suffit pour subvenir à leurs besoins et qu'après ils préfèrent rester chez eux. En réalité, en fait, la plupart des gens veulent travailler. Ce que les gens et donc c'est d'autres barrières qui se placent entre eux et le travail. Et donc, que ce soit en Alaska, que ce soit autour d'études qui ont été faites sur une centaine de programmes sociaux dans les pays à bas ou moyen revenu, que ce soit au Royaume-Uni, on trouve partout la même chose, c'est-à-dire la réponse d'offre de travail à la générosité des aides sociales est extrêmement faible. Et ce qui change, ce qui l'aide plus, c'est d'avoir un support actif à l'insertion dans le travail, parfois allant jusqu'à la subvention de certains emplois, l'entrée dans le travail, etc. Et donc, mais cette idée, elle va à l'encontre, je pense déjà, elle va à l'encontre de ce qu'on enseigne dans le premier cours d'économie, qui est souvent un petit peu le seul que... les citoyens, les citoyennes et les hommes et les femmes politiques compris. Et elle va à l'encontre peut-être de l'intuition. On se dit oui, forcément, si jamais les gens avaient plus de revenus, ils n'auraient pas besoin de travailler. Et du coup, c'est cette leçon qu'on aurait quand même dû apprendre au fur et à mesure que les données s'accumulent, n'est pas vraiment passée dans le discours politique. Et ça, c'est par exemple un gros défaut dans la courroie de transmission, parce que ça a des implications sur énormément de programmes. Ça ne veut pas dire qu'on a par exemple le budget pour donner des aides infinies aux gens. Mais ça veut dire que la rationalité pour le faire d'une manière ou d'une autre est très différente de celle qui est présentée aujourd'hui.
Et là, vous l'attribuez à quoi, cette difficulté dans la courroie de transmission vers le monde politique ?
Ah, je pense qu'il y a, deux choses. Donc pour ce sujet-là, spécifiquement, je crois qu'il y a une intuition profonde que les gens ont. Par exemple, dans une enquête que j'ai réalisée aux États-Unis, j'ai séparé les gens en deux groupes. Au hasard, un groupe leur ai demandé si jamais, par exemple, l'assurance médicale était conditionnée à travailler, est-ce que vous pensez que les gens travailleraient plus ? Et les gens en général. Et l'autre groupe, je leur ai demandé si jamais l'assurance médicale était conditionnée au travail, est-ce que vous travailleriez plus ? Et quand on demande aux gens au sujet des autres, ils disent « Ah ouais, ils travailleraient plus parce que là, ça les rend complètement paresseux d'avoir ce minimum médical. » Mais si on leur demande à leur sujet, ils disent « Mais évidemment que non, c'est pas du tout pour ça que je travaille. » Donc les gens pour eux-mêmes sont bien conscients de ce que je dis, c'est-à-dire il y a un besoin d'être inséré dans la société, d'avoir un rôle, de participer, mais ils se méfient énormément des autres. Et donc ça, je pense qu'intuitivement, c'est une intuition profonde qu'on a, donc il faut aller contre cette intuition profonde. Malheureusement, beaucoup des intuitions profondes qu'on possède sont fausses, donc c'en est une. L'autre, c'est que la formation économique de nos élites est à la fois trop et pas assez. Trop dans le sens où tout le monde a pris un tout petit peu d'économie, et pas assez dans le sens où beaucoup d'entre eux ne sont pas allés au-delà. Et donc, ils ont tous appris les bases, qui est le modèle, disons, le plus simple, comme si la carte du métro parisien avec que les lignes de RER, et ils ne sont pas allés à l'étape suivante où les choses se simplifient, on se complique, on rajoute d'autres lignes de métro, on rajoute les bus, etc. Et en fait, c'est des choses qui sont connues, mais qui ne sont pas forcément arrivées aux oreilles de ces personnes quand ils étaient étudiants. Donc ça, c'est quelque chose à changer fondamentalement dans l'enseignement de l'économie, dans les écoles comme Sciences Po, comme l'ENA, etc., sur lequel d'ailleurs il y a une réflexion aujourd'hui à Sciences Po.
Sur l'incitation au travail, je trouve les résultats qu'apporte Esther Duflo extrêmement importants et intéressants. Je vais mettre un petit bémol qui est du côté encore plus de la microéconomie, c'est que ça serait intéressant d'avoir des entrepreneurs aussi là-dessus, parce que certains vivent objectivement parfois des difficultés de recrutement ou de fidélisation qui peuvent amener certaines questions possibles, limitées en général sur l'indemnité chômage. Je ne prétends pas trancher le débat, mais ils ne sont pas tous des casques à pointe biaisés. Donc il y a des situations concrètes, peut-être qu'il faut qu'on garde dans l'esprit. Mais est-ce que je peux illustrer encore un peu plus ce lien avec des travaux d'évaluation comme ceux qu'Esther Duflo conduit par rapport à nos politiques publiques ? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, parce que ça me frappe beaucoup, je suis très exposé par mon métier à la comparaison européenne et internationale. Le problème budgétaire français, il est particulièrement lourd. Je le dis d'ailleurs pour les jeunes, on vous lègue un sac à dos, là, une charge de la dette publique qui est 4 à 5 fois plus lourde que celle qu'avait ma génération quand on a commencé dans la vie. On manque gravement à la solidarité intergénérationnelle. Ça, c'est le problème plus lourd en France. Mais le problème qu'on a partout, dans toutes les économies avancées, en Europe, y compris aux États-Unis, a fortiori au Japon, c'est qu'on a des dépenses sociales, retraite et santé notamment, qui sont de plus en plus lourdes à cause du vieillissement. Et ça, c'est une tendance écrite. Et que relativement, cet argent qui va vers les dépenses sociales, et pour des bonnes raisons, est moins disponible pour les services publics de base. Et vous pouvez regarder un peu partout, que ce soit la sécurité, les transports, l'école, je pourrais en ajouter un certain nombre, il y a un sentiment, notamment dans les classes moyennes, de recul des services publics. Et je n'ai pas besoin de faire un dessin, ce sentiment de recul des services publics, il a des conséquences politiques extrêmement fortes. C'est une des explications, je crois, de ce qu'on appelle le vote populiste. Au passage, je n'aime pas du tout l'expression, je trouve qu'elle est trop méprisante et réductrice. Mais ce sentiment de recul des services publics, c'est peut-être en partie un sentiment, mais ça correspond aussi à cette équation que je viens de dire, c'est un sujet très sérieux qui n'est pas posé comme tel. Regardez l'arbitrage entre dépenses sociales et services publics de base. Je crois qu'il faudrait que nous arrivions à poser le sujet comme ça. Et ce n'est pas pour faire reculer la production qu'on aura pour nos concitoyens, mais raison de plus pour aller regarder l'efficacité avec les travaux micro. Il y a quelque chose dont probablement aucun d'entre vous n'a entendu parler. J'avoue que je l'ai découvert récemment, une méthode économique qui s'appelle les frontières d'efficience. C'est l'OCDE qui a fait ça. On met sur un graphique, politique par politique, vous mettez dans l'axe horizontal les ressources qu'on consacre à une politique et dans l'axe vertical les résultats. On les mesure par 2-3 agrégats. La frontière d'efficience, c'est les pays qui ont le meilleur rapport dépenses sur résultats. Eh bien, il y a une chose troublante, c'est que la France n'est pratiquement jamais à la frontière d'efficience. Lequel d'entre nous a entendu parler, dans un débat médiatique ou public, des frontières d'efficience sur l'éducation ou sur la sécurité ou sur le logement ou sur les transports? Je crois vraiment que là, il faut qu'on construise ce pont. Et voilà, je regrette beaucoup que notre débat budgétaire et fiscal soit à ce point passionnel, simpliste, je vous dis, les politiques d'offre et de la demande, mais qu'on n'aille pas regarder plus en détail comment on peut gagner en efficacité. Croyez-moi, il y a de la marge, hein. Les dépenses publiques en France, alors qu'on a à peu près le même modèle social que nos voisins, c'est 9% de PIB de plus que le reste de la zone euro, 270 milliards d'euros. Je ne dis pas qu'on peut aller gagner 270 milliards d'euros comme ça, mais ça vaut le coup d'aller regarder avec des travaux d'évaluation.
Alors, je vous propose qu'on... Il y a des questions qui commencent à arriver, donc on reviendra sur certains points. Peut-être pour poursuivre sur la dernière grande famille de critiques qui est faite aux économistes, c'est qu'ils se trompent tout le temps. Un des gros exemples, ça avait été la crise de 2008, que, en tout cas, personne n'avait vu venir. Alors, je vous pose la question de manière un peu brutale. Est-ce que vous vous trompez tout le temps, l'un et l'autre ?
Ah, ça, c'est d'abord pour Esther.
Ma posture sur la plupart des sujets, c'est que je ne connais rien à rien. Donc, du coup, ça me laisse moins de marge pour me tromper, parce que j'arrive avec assez peu de préjugés sur beaucoup de choses. Et après, j'essaye de faire des études extrêmement précises, souvent des équivalentes aux essais cliniques, des études randomisées sur les sujets sur lesquels je travaille. Je pense que on arrive à un résultat qui est relativement solide, mais très spécifique. Je crois que cette idée, ils se trompent tout le temps, justement la crise de 2008, mais même en France, il y a eu un petit peu le même sujet, au sujet du budget, quand on s'est rendu compte qu'il y avait moins de revenus que ce qu'on avait prévu, que le rendement, tout avait été un petit peu surévalué. Donc ça, c'est les économistes, c'est pas les économistes académiques, c'est les économistes du Trésor, disons, qui ont fait ces erreurs-là. Mais ça peut être interprété de deux manières, et aucune des deux n'est très bonne. La première, c'est en fait, ils emploient tous ces grands mots, mais en fait, ils ont absolument aucune idée de ce qu'ils font. Donc il n'y a pas de raison qu'on leur fasse confiance à eux par rapport à quelqu'un d'autre qui propose des choses différentes. Par exemple, un Donald Trump qui nous explique, qui nous donne une formule magique pour les tarifs. Tous les économistes se moquent de lui, mais les gens, ils regardent ça et disent « Oui, pourquoi ils se moquent de lui ? C'est pas plus n'importe quoi que ceux qui nous disaient en 2008 qu'il fallait pas s'inquiéter des subprimes. » Donc ça, c'est une réponse positive, une réponse possible. Et l'autre réponse possible, c'est qu'en fait, ils se trompent. C'est systématique la manière dont ils se trompent. C'est-à-dire, c'est toujours contre nous. Les erreurs ne sont pas aléatoires. Les erreurs vont toujours dans le sens où c'est les petits qui doivent payer et c'est les gros qui doivent s'en sortir. Je vous parle d'une interprétation possible, enfin, et que j'entends beaucoup de ce genre d'erreurs. Donc, c'est quand même pas par hasard que l'erreur, c'est qu'on n'a pas assez on a moins de ressources que ce qu'on avait prévu et pas le contraire, par exemple. Ça crée cette défiance qui ensuite ouvre la porte à tout et n'importe quoi. C'est-à-dire la légitimité de tous les discours se met à plat. Et du coup, quelqu'un qui promet à quelque chose de plus satisfaisant, par exemple qu'on puisse à la fois payer les retraites de tout le monde dans une société qui vieillit et avoir des services publics d'énorme qualité et ne pas payer d'impôts du tout. Tout d'un coup, c'est pourquoi on ne ferait pas confiance à ce discours-là? C'est un petit peu similaire de ce qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis post-Covid. À nouveau, je reviens à la situation, aux effets à long terme sur la confiance du Covid. Ce qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis avec le mouvement MAHA, Make America Healthy Again, et Kennedy, qui est ministre, l'équivalent du ministre de la Santé, qui promeut des solutions miracles, des potions magiques, etc., qui est contre la vaccination, qui est en train de participer à la destruction du système de recherche de santé aux États-Unis, au regain de la rougeole, etc. Et tout ça, en fait, c'est possible parce que il n'y a plus de hiérarchisation entre ce qu'il propose lui et ce que propose, disons, l'establishment médical. Et ça, c'est un résultat de la crise de confiance, enfin, c'est un des résultats de la crise de confiance qui a eu lieu pendant le Covid. Injustifié en ce qui me concerne moi, mais que les gens, qui a été très très profonde dans certaines parties des États-Unis.
François Villeroy-de-Galloz, votre erreur.
Non, non, je partage à peu près tout ce que Esther Duflo vient de dire. Je crois que c'est très éclairant. Il nous arrive de nous tromper. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes. Il ne faut pas déduire de ça que tout ce qu'on fait systématiquement manque de pertinence. Et ça, c'est une frontière assez fine. Alors, je vais l'illustrer dans mon domaine. On nous a dit, vous n'avez pas vu venir la vague d'inflation de début 2022. Et c'est vrai. On ne l'a pas vu venir. Il faut être honnête, personne ne l'a vu venir. Pourquoi? Petite explication des faits. On a vu se succéder deux chocs. Chacun des deux était hautement improbable et l'enchaînement des deux, personne ne l'avait vu. Un choc désinflationniste, voire déflationniste, c'était le Covid. Et à l'époque, souvenez-vous, on a dû soutenir l'économie. Et puis derrière, un choc inflationniste, qui était l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous ne l'avions pas vu venir en 2020, je pense que personne ne l'avait vu. Mais ça nous arrive de nous tromper. Il faut en tirer quelques leçons, j'y reviendrai après. Après, ce n'est pas pour ça que nos politiques, ou je pense que notre mode d'exercice est devenu indifférent, non pertinent, etc. Alors, pardon de reprendre un tout petit peu de positif. Je crois que la façon dont les banques centrales, et en particulier la Banque centrale européenne et la Banque de France, ont fait face à cette vague d'inflation a été efficace. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 3 ans, tout le monde nous disait, vous n'y arriverez pas, ou bien ça prendra très longtemps, ou vous devrez monter les taux d'intérêt extrêmement haut et vous allez tuer la croissance et provoquer la récession. Nous sommes aujourd'hui revenus à une inflation à 2%, des taux d'intérêt à 2%, qui sont beaucoup plus bas au passage qu'aux États-Unis et en Angleterre, sans récession. La croissance française n'est pas brillante, mais elle est même assez résiliente. Parce que les enchaînements classiques de la politique monétaire, ils fonctionnent. Et quand M. Erdogan en Turquie ou l'administration américaine dit, ah bah écoutez, moi je vous dis, vous pouvez baisser les taux d'intérêt tout en vainquant l'inflation aux États-Unis, c'est faux. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas vu venir l'inflation en 2021 que les mécanismes restent faux. Un autre exemple, pardon, positif, c'est le succès de l'euro. Je le disais au début à propos de la confiance. L'euro, il a démarré en France, je vous rappelle, septembre 92, le référendum, un grand débat démocratique, il démarre avec 51% de confiance. La marge la plus courte possible en démocratie. L'euro, il est aujourd'hui soutenu par 79% des Français, avec, vous l'avez noté, un soutien maintenant de tous les partis majeurs. Donc il s'est passé quelque chose. C'est qu'au fil du temps, avoir affirmé une politique cohérente, l'avoir expliquée, l'avoir rendue concrète dans la vie des gens avec l'euro, ça a convaincu. Donc ne renonçons pas à des politiques auxquelles nous croyons. Mais peut-être la dernière chose que je dis, c'est acceptons plus d'humilité en amont. Moi, je le dis très simplement, je ne prétends pas, les économistes de la Banque de France ne prétendent pas avoir la science infuse sur tout. Je me méfie énormément de cette image qu'il y a eu parfois des banquiers centraux, maîtres de l'univers, omniscients, omnipuissants. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous ne sommes pas dans une tour d'ivoire d'où nous saurions ce qui va se passer dans un monde aussi incertain. On vit aussi avec les incertitudes. Comment est-ce qu'on fait face à ça ? Reconnaissons que nous essayons d'être très pragmatiques, d'évaluer au fur et à mesure, de réviser nos jugements et d'utiliser des scénarios. Ça, nous le faisons de plus en plus. Après la guerre en Ukraine, par exemple, on a introduit un scénario sur l'évolution des prix et ça s'est avéré être le bon scénario. Maintenant, quand vous avez trois scénarios devant vous, vous ne savez pas forcément la probabilité des uns et des autres, vous ne savez pas comment vous pondérez sur votre décision de taux d'intérêt. Mais vous ouvrez le débat.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. Je donne la parole à la salle et ça fait bien le pont avec ce que vous dites parce que finalement, ce sont des questions qui introduisent dans le débat les politiques et les médias. Il y a une première question sur le niveau de nos hommes politiques. De manière générale, ce qui semble très bas en économie. Que peut faire la Banque de France ? Quel est le travail de pédagogie à effectuer ? Je donne les deux autres qui sont sur ce thème-là.
Donnez les deux autres.
Alors, l'autre question, en tout cas, propose de lier méfiance envers le monde économique, les économistes, et méfiance envers le monde politique. Voilà, est-ce qu'il y a forcément un lien, un peu, beaucoup, pas du tout ? Et puis, troisième question, sur le rôle des médias. Est-ce que ça devrait être aux médias ou à d'autres ? De faire plus de comparaisons européennes, de parler plus de micros, des travaux évoqués par Esther Duflo. Voilà, je pense qu'on a un peu un trio là, intéressant sur les responsabilités des uns et des autres.
Je vais peut-être commencer par les politiques, je ne sais pas, pour les médias, c'est Marie Dansert qui répondra. Mais non, sur les politiques, il est sûr que la transmission entre le débat économique, qu'il soit macro ou micro d'ailleurs, et la décision politique ne se fait pas bien. Hein. Et je crois que tout ce qu'on partage depuis trois quarts d'heure, j'appelle votre attention, moi j'en suis très reconnaissant à Esther Duflo, que c'est une rencontre assez inhabituelle. On n'est pas d'accord sur tout, mais on converge sur beaucoup de choses. On a l'impression que quand on arrive à la décision politique, ça devient beaucoup plus pauvre, beaucoup plus court-termiste, beaucoup plus émotionnel. Alors je ne sais pas si c'est une question de niveau des hommes et femmes politiques, je me méfie un peu de cette explication-là. Je vais montrer quand même une phrase de compréhension pour elle et eux, ça n'est pas toujours facile d'être dans la décision politique et c'est devenu de plus en plus difficile parce que la pression du court terme est énorme et que l'émotionnel est énorme. Et que si un responsable politique face à une question difficile comme l'éducation dit « Écoutez, moi je prends les prescriptions d'Esther Duflo, mais je vous dis ce qui est la vérité vraie, que ça va prendre plusieurs années à donner des résultats », on va lui dire, vous n'avez pas compris. Il nous faut une réponse qui soit efficace et visible dans 6 mois. Et encore 6 mois, c'est beaucoup plus long que l'horizon du sondage. Donc la pression du court terme et de l'émotionnel est colossale. Est-ce qu'il y a une responsabilité des médias là-dedans ? Peut-être. Est-ce que c'est une responsabilité de nous tous comme citoyens ? À voir. Pour autant, je ne désespère pas en la matière. La Banque de France, elle est indépendante des différents pouvoirs politiques. Ça, je crois que ça fait partie d'ailleurs de la confiance que nous inspirons, mais pour autant, nous essayons d'apporter notre éclairage. Je n'oblige pas les différentes forces politiques à être d'accord, mais quand on pense qu'il y a des choses qui seraient bonnes pour le pays, sur le budget ou sur un certain nombre de réformes structurelles, je prends le rapport Draghi pour le renforcement de la croissance en Europe, on le dit. Est-ce qu'il y a des exemples positifs ? Vous me permettez d'en citer un et demi, très vite. Le premier, c'est le rapport Blanchard-Tirole, complètement oublié, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, je crois que Jean Tirole est là au GECO. En 2021, le président de la République confie à ces deux économistes renommés un rapport sur 3 sujets lourds de long terme, le climat, les inégalités et le vieillissement démographique, c'est-à-dire les retraites. Et Olivier et Jean font, avec une commission, un rapport que je me permets de vous recommander, parce que sur chaque sujet, il comporte au moins 2 chapitres. Le premier, c'est quels sont les analyses de la science économique et les recommandations. Et le deuxième chapitre, très original, c'est quelles sont les représentations par rapport à ça dans le débat public. Et pourquoi ces recommandations, qui sont souvent assez consensuelles, ne s'appliquent pas, ne se transmettent pas à la politique. Ils ont fait l'effort de comprendre la difficulté. Bon, et puis ils en ont déduit ensuite un certain nombre de chemins. Voilà, un des grands regrets que j'ai, c'est que Blanchard-Tirole, il dort toujours au fond d'un tiroir. Hein. En matière de politique monétaire, qui est mon domaine, là, c'est plus facile, peut-être parce que nous sommes indépendants, que nous avons la durée, que nous sommes un peu moins soumis à la pression de l'urgence tous les matins. Mais nous avons un dialogue objectivement avec les économistes qui est très nourri. On ne converge pas toujours, mais on partage les problèmes, les solutions, etc. Ça fait dans ma vie 40 ans que je fais de la politique économique dans des champs assez différents. Je n'ai jamais trouvé ça à ce point.
Esther Duflo, vous avez déjà pas mal parlé du lien avec le monde politique. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet élément-là ?
En ce qui concerne l'efficacité des politiques publiques dont on a parlé, c'est-à-dire comment se rapprocher justement de cette frontière, s'assurer que les services soient les plus efficaces possibles pour les citoyens. Il y a beaucoup de ces sujets qui, en fait, ne sont pas autant du ressort de l'émotionnel, ou en tout cas n'ont pas vraiment de raison d'être du ressort de l'émotionnel. C'est ce que on peut très facilement être assez loin des effets d'annonce, parce que il y a beaucoup de l'efficacité de systèmes dépend moins de grandes idées que comment elles sont mises en œuvre effectivement. C'est ce que j'appelle la plomberie. Et souvent, la plomberie est moins glamour, mais en même temps, on a beaucoup plus d'espace potentiellement pour changer les choses, parce que c'est pas forcément autant sous les feux de la rampe, et c'est pas forcément autant lié à des opinions ou des idéologies très fortes. Et donc c'est là où en fait il y aurait potentiellement des marges de manœuvre beaucoup plus fortes en fait pour améliorer l'efficacité. Et là ce qui est un petit peu dommage souvent, c'est un manque une espèce de frilosité sur l'expérimentation. C'est-à-dire ce qu'on a souvent c'est de grandes annonces, même sur des sujets où on aurait pu commencer par expérimenter un petit peu avant de mettre les choses en place. Et quand je parle d'expérimenter, c'est expérimenter réellement. Par exemple, quand on a parlé des uniformes à l'école, c'est le sujet vraiment typique où on aurait pu commencer par expérimenter. Et quand je dis expérimenter, ça ne veut pas dire demander à 3 villes si ça les intéresse, ça veut dire faire une vraie expérience à une échelle suffisante pour qu'on puisse en apprendre des choses. Et si on avait fait ça, on aurait pu savoir si c'est une bonne chose, une mauvaise chose sur certains sujets et pas sur d'autres, et décider en fonction. Alors, peut-être que les uniformes, ça avait été médiatisé trop tôt, mais des questions comme ça, en fait, il y en a des myriades. Et c'est ces myriades de décisions qui font, au final, le fonctionnement d'un système. Et moi, donc, je travaille surtout sur les pays les moins avancés. Et ce qui est extrêmement frappant dans les 30 années de ma carrière, c'est à quel point les hommes et les femmes politiques dans ces pays, que ce soit dans différents pays d'Afrique, que ce soit en Inde, que ce soit en Amérique latine, sont de plus en plus intéressés par cette démarche expérimentale, soit pour en appliquer les résultats, choses qui ont été faites ailleurs, qui sont complètement ouvertes à la boîte à outils, qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils, et soit pour eux-mêmes expérimenter des nouvelles politiques avant de les passer à l'échelle.
Merci beaucoup.
Et ça, c'est une des choses les plus encourageantes, disons, que je vois comme développement, et j'espère que ça viendra peu à peu dans les pays plus avancés, soi-disant.
Alors, on arrive à la fin de l'échange. Je vous propose chacun une conviction que vous voulez transmettre peut-être à la fin ou répéter, un message qui vous tient à cœur, 30 secondes chacun.
Peut-être en une minute. D'abord, soutien total à ce qu'Esther vient de dire. On accorde beaucoup trop d'importance à l'annonce et pas assez d'importance à la mise en œuvre effective. Imaginons un nouveau ministre, c'est une espèce assez fréquente ces temps-ci, qui arrive, on lui dit, monsieur le ministre, quels sont vos plans pour le logement, l'éducation nationale, ce que vous voulez. Et il répond, ce qui serait la sagesse même, écoutez Esther, il répond, ma première priorité, ça va être de bien mettre en œuvre, de réaliser ce que mon prédécesseur avait annoncé. Le gars est mort médiatiquement, je pense, parce qu'on dit, il manque d'imagination, etc. Donc on multiplie des plans qu'on n'applique pas. Ça fait partie de la perte de crédibilité. Après, sur la conviction, moi j'ai envie de dire quelque chose à la suite de ce débat. Peut-être dans un pays qui doute beaucoup de lui-même aujourd'hui. Nous devons évidemment changer beaucoup de choses. Nous devons redresser nos finances publiques pour la France. Nous devons accroître la croissance et l'innovation pour l'Europe. Mais je voudrais te dire une chose, quand on regarde les enseignements de l'économie, quand on regarde les meilleures pratiques, y compris en Europe, non seulement nous devons le faire, mais nous pouvons le faire. De grâce, arrêtons ces chicayas politiques de court terme, les isanies à la Astérix, Nous sommes le pays qui a aussi réussi les Jeux Olympiques et la reconstruction de Notre-Dame. Allons prendre les meilleures solutions, essayons de construire des compromis et essayons surtout de les appliquer avec un peu de continuité. Nous ne sommes pas condamnés à faire nos propres échecs.
Esther Duflo, le mot de la fin est pour vous.
Oui, je vais commencer par m'aligner derrière le mot de la fin du gouverneur que je partage et aussi sur, peut-être justement finir sur cette note optimiste, c'est-à-dire pour revenir à la profession économique, l'étendue des sujets, les convictions avec lesquelles les gens arrivent et l'ouverture d'esprit et je pense de plus en plus grande dans notre profession. On a parlé des limitations, mais il faut aussi parler des progrès. Le fait qu'on débatte sur une taxe qui s'appelle la taxe Zucman, ça veut quand même, c'est une entrée quand même des économistes dans le débat public avec un corpus académique derrière qui est mobilisé d'un côté et de l'autre est une chose extrêmement positive. Les collaborations qu'on voit quand même de plus en plus entre les administrations et différentes institutions d'enseignement supérieur, donc par exemple PSE, sont tous des choses positives qui montrent la capacité de nos sociétés à faire mieux dans le détail. Et si on arrive à garder une foi dans le fait que tout ça nous amène vers un mouvement positif, je pense qu'on peut régler ou on peut faire des progrès sur les sujets extrêmement importants qui nous touchent aujourd'hui, que ce soit les inégalités, le climat, les équilibres budgétaires, comment faire face au vieillissement, etc. Je pense qu'on peut parfaitement y arriver.
Merci. Bon, on reste sur ce mot. On peut parfaitement y arriver. Merci à tous les deux. Et on doit vite laisser la place à la conférence suivante. Merci encore, Esther Duflo, pour votre disponibilité à distance. Au revoir, merci.
Merci.
Au revoir, Esther.